Et vous écoutez France Culture. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui, en ce samedi, comme est l'issue de chaque saison, et celle-ci est la 20e, vous convie à un pique-nique géant et une partie de piñata monstre. Alors préparez vos battes, car va surgir du monstre en carton Leftovers et Little Nemo, Lucio Fulci et Asia Argento, Donald Trump et Jean-Luc Fromental, Clinton Lindemuth et Eric Kremes, le disque qui parle, Brian De Palma et Antonin Varenne. Buffet à volonté, c'est parti! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier Mauvais Genre de la 20e saison. Et comme d'habitude, comme je le précisais en début d'émission, eh bien, nous vous convions à une garden party extrêmement distinguée et un pique-nique grandiose où chacun va pouvoir vous faire déguster ses petites spécialités. Et parmi ceux-ci, eh bien, je suis entouré bien sûr d'Élise Lépine, bonsoir. Fausto Fazulo est là.
Bonsoir François.
Bonsoir Fausto. Céline Duchesnay.
Bonsoir François.
Et Monsieur Guillot.
Et bonsoir François,
bonsoir
également.
Bonsoir Antoine. Monsieur Bire.
Bonsoir François.
Jean-Pierre Dionnet.
Bonsoir François.
Très bien. Il faut varier à chaque fois la manière de le dire. Il y a tout un travail sur l'intonation. Pas comme tellement.
Bonsoir François.
Voilà, admirable. Monsieur Rouillé.
Bonsoir à tous.
Très bien. Sixtine Audebert.
Bonsoir.
Voilà, bien tous les membres éminents de cette assemblée vont donc ce soir vous faire partager leur passion et vous allez voir pourquoi. On commence avec Andrew Watts, un choix de Laurent Polleré.
Also said, never have I seen their children begging bread. And I just believe that there's a God somewhere. Yes, it is. There's a God somewhere. Listen. And you can find it. It's not very.
Andrew Watts, l'ouverture de la playlist de Laurent Polleré pour ce dernier Mauvais Genre de la saison, le Mauvais Genre donc de ce soir, qui est une sorte de grand festival de tout ce qu'on a pu trouver en cette fin de saison. Alors je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire au mois de juillet, au mois d'août, et même je crois au mois de septembre, au mois d'octobre, mais en tout cas, si vous êtes grand amateur de bande dessinée et d'une manière générale de toute forme d'imaginaire, il faut absolument que vous dirigiez vos pas ou autre chose, tout ce que vous pouvez vous faire utiliser pour vous déplacer, pour aller à Cherbourg, car en effet, au lycée Thomas-Henri, enfin au musée Thomas-Henri, pardon, vient de s'ouvrir sous la direction de messieurs Peters et Skuyten une formidable exposition Winsor McCay. Alors Winsor McCay, on en a souvent parlé à Mauvais Genre, c'est un personnage absolument essentiel et génial de l'histoire de la bande dessinée, et surtout de l'histoire de la bande dessinée américaine, un petit personnage qui dessinait debout avec un chapeau incliné sur le crâne, l'occiput, et en fumant son cigare, et qui a été sûrement le plus phénoménal phénomène graphique de l'histoire de la bande dessinée, notamment l'auteur de Little Nemo. Et pour la première fois au monde, et sûrement pour la dernière, j'insiste, sûrement pour la dernière, on pourra voir 70 planches originales de Winsor McCay, présenté donc à Cherbourg et avec toute une série de muséographies faites par Peter Seskoyten, notamment des interventions filmées à la vidéo. Et puis, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'on voit effectivement les planches originales avec le dessin qui était fait par Winsor Mackay, on peut dire comme ça, dans une sorte de transe graphique spontanée où il inventait véritablement son univers sur la page, mais que l'on peut voir également à côté, pour certaines de ces planches, eh bien les Sunday Papers, c'est-à-dire l'impression qui a été faite dans les journaux américains. Donc on peut juger à la fois du travail graphique pur de Winsor Mackay, qui est absolument extraordinaire, et à côté du travail de coloriste et de tout ce qui était la chromotypie fait par les Américains. C'est sûrement l'exposition bande dessinée qu'il ne faudra pas rater cet été, au début de cet automne. Commentaire, Antoine Guillot.
Oui, non, je confirme, c'est pas tant de voir que la bande dessinée à peine inventée, où Winsor Mackay tord les cases dans tous les sens, réinvente la narration, des leçons qui ne seront retenues que au moins 70 ou 80 ans plus tard par des Druyers, par exemple, qui vont reprendre ces formules-là. Et puis il y a aussi de Winsor Mackay les formidables cauchemars de l'amateur de fondue au Chester, qui est une version adulte de Little Nemo, qui est à découvrir aussi.
Voilà, donc si vous possédez déjà l'édition Taschen, eh bien, par là même, vous pouvez aller au cœur même du phénomène Winsor Mackay en allant à cette exposition, donc au musée Thomas Henry. C'est à Cherbourg, monsieur Jean-Pierre Dionnet.
Oui, je voulais juste dire un petit bémol, c'est que Mackay n'est pas le seul à ce moment-là à bousculer les cases. Hein, ils sont une douzaine chez Hearst ou chez Pulitzer, mais c'est celui qu'on a retenu. Et que par le plus grand des hasards, l'an dernier, il y a eu une grande exposition à Lausanne qui vient d'éditer un catalogue. C'est la revue BD Fil. Et là, c'est les cauchemars de l'amateur de fondue, mais revisité par à peu près tous les dessinateurs contemporains qui comptent, de Kilofer à Mandrika, Suisse d'adoption, d'Hôtel Millionnaire à David B., à Blutch, à Menu, à Hercile, à Frédéric Peters. Et ce qui est très très marrant, c'est de voir que les cauchemars de l'amateur de fondue sont une variation de style. On se souvient de Moebius faisant du Little Nemo, qu'on peut reprendre à l'infini. Et là, la variété des auteurs, il y en a 38 en tout, fait un beau compliment. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a une bande dessinée qui s'est arrêtée et qui vit toujours au travers des acteurs les plus actuels. Et BD Fil est par ailleurs une des plus belles revues de bande dessinée qui existe, Suisse aidant. Elle fait quelque chose comme 300 pages. Alors, il y a un numéro par an, faut pas le rater, mais c'est trouvable sur Internet. Et puis, Lausanne, peut-être que l'an prochain, j'irai, puisque l'invité d'honneur sera le Suisse d'honneur Mandrika en septembre.
Alors, deux choses à signaler, c'est que nous avons fait un grand entretien avec Nikita Mandrika que nous diffuserons à la rentrée, puisqu'on parlait de Lausanne, monsieur Bir, nous serons à mauvais genre
oui,
les invités du Louf au mois de septembre, mois d'octobre.
Je ne sais plus, en octobre.
Voilà, au mois d'octobre.
Nous aurons carte blanche mauvais genre.
Voilà, l'aventure lausannoise continue pour mauvais genre. Alors, Jean-Pierre Dionnet, vous venez de nous parler du travail fait à partir de Winsor Mackay par des dessinateurs d'aujourd'hui. On continue avec vous avec deux propositions, parler de cauchemars, d'autres cauchemars à nous proposer, Jean-Pierre.
Oui, du noir très noir. Je n'avais pas parlé en son temps de la réédition, il y a quelques mois, de La Horse de Michel Lambesque, qui est le film avec Gabin, où les pires bandits du monde s'attaquent à Gabin. Dans le livre, ce n'est pas lui, mais dans le film, c'est lui. Et ils ne savent pas à qui ils ont affaire. C'est un type de la terre. Ils disent, oui, mais c'est qu'un paysan. Oui, mais c'est un paysan qui sait ce qu'il veut. Eh bien, Clayton Linsmus, on en est à son deuxième polar. Alors, chez nous.
Au seuil, dans la collection Cadre Noir.
Paisible et froid, dans la collection Cadre Noir au seuil, c'est la même chose. C'est-à-dire que Clayton Linsmus, il a plusieurs métiers. Il est assureur, il est charpentier, il fait des tas de choses. Et il écrit du noir, dit-il, pour parler d'intégrité, pour parler de pureté. Il dit que ses méchants sont purs, que ses bons sont purs, que sa meilleure manière de vous dire que vous n'allez pas acheter un mauvais livre si vous achetez le sien, c'est de les lire pour voir qu'il ne parle que de choses qu'il comprend, de l'œil pour œil, de la dent pour dent, de la violence nécessaire à toute bonne histoire noire. Et là, eh bien, le héros a un chien qui s'appelle Fred. Et des méchants, très méchants, vont s'emparer du chien, qui est un brave chien, pour en faire un chien de combat. Plus tard, ils s'empareront d'une jeune femme également. Mais le chien suffit. Il va se heurter à une mafia comme celle auquel se heurte Parker. Alors ils vont rire de lui, ce type tout seul avec son vieux fusil. Il ne devrait pas rire, car quand il est dans la tête, celui-là, d'autant qu'il a été frappé par la foudre et que quand il touche la main de quelqu'un, il sait si le mal l'habite. Ça me rappelle le film de Bill Paxton qui vient de nous quitter, L'Emprise. Eh bien, il ira jusqu'au bout. Et c'est d'une violence incroyable. Alors, il y a un côté Jim Thompson, très net, dans le sens qu'il y a, hors les séquences de violence et tout, une vraie vie résiduelle de tous les personnages secondaires. Il y en a qu'on quitte trop vite, il y en a qu'on rencontre, il y en a qu'on croise. Et en mémoire de Fred, donc, pourquoi on tue pour un chien? Pourquoi on tue pour son chien? Pourquoi il n'y a pas de limite à ce qu'on doit faire subir à ceux qui ont fait subir l'affront? J'étais sidéré par ce livre qui me semble être avoir des accents presque à la Mal d'Aurore. Ça ne lui plairait pas dans la description de certaines séquences de chiens éventrés, de choses comme ça. Et puis alors, comme c'était un peu noir, mais moi je trouve que l'été...
Non, c'est Clayton Lindemuth, donc c'est un roman paru au Seuil dans la collection
donc,
Cadre Noir.
Clayton Lindemuth, en mémoire de Fred, en cadre noir, au Seuil noir, traduit par, Bruno, par Mathieu Sen, qui est un spécialiste du genre. Et puis alors, dans le noir, totalement délirant, et beaucoup plus proche du réel, nous avons Starve de Nigel Zeselje. Alors Zeselje, on en a déjà parlé.
Ah oui,
on sait que c'est le prodige de l'école de Zagreb, qui a dû quitter son pays à 16 ans, qui a 22 ans travaillé avec Fellini, qui voyait un génie, qui a fait depuis presque 30 bouquins chez Mosquito, qui travaille également pour DC Comics. Moi, j'ai eu la chance de faire un livre avec lui et... j'y ai retrouvé une patte, je dirais presque à la Breccia. D'ailleurs, il dessine plus petit comme Breccia, et comme Breccia, il vient du plus grand réalisme pour aller vers ensuite une déformation du trait qui est l'étouffement de ce qu'il a vécu jeune en Croatie. Et il fait ça souvent dans des concerts picturaux avec soit la fille de John Lurie qu'il a épousée, soit les ornes, soit les tambours du Bronx. Et là, Starve, c'est un jeu. C'est un jeu où les pauvres regardent les riches faire des repas formidables, des recettes extraordinaires, et eux, ils n'ont rien à manger. Sauf que l'homme qui a créé le jeu Starve, ça c'est chez Urban Independent, c'est ça, Urban Indies, écrit par Brian Wood, l'homme qui a créé le jeu va le retourner. Ça va devenir un espèce de rollerball à mort. On va montrer à la télé ce qu'on peut faire avec ce que mangent les gens de la rue, les chiens et tous les déchets. Et en gros, au travers de ces recettes de cuisine, de Master Chief, on va détruire le système de l'intérieur. C'est un livre de fou, au sens propre, graphiquement et dans le contenu. Moi, je pense qu'avec Star, vous avez le roman dessiné le plus violent et le plus vicieux que j'ai lu depuis 2 ou 3 ans. C'est tout ce que j'avais à en
voilà,
dire.
Les noirceurs estivales de Jean-Pierre Dionnet, Lindemuth, donc au Seuil, et Zeselje chez Urban Comics. On passe maintenant à vous, Christophe Birme. Alors là, non pas avec des noirceurs du même type, mais avec plutôt quelque chose de plus grinçant.
Oui, grinçant, drôle. C'est un livre qui s'appelle Le Disque qui parle, qui a d'ailleurs le format d'un 45 tours. C'est aux éditions Pop Cards Factory. C'est un cabinet de curiosités sonores. Plusieurs collectionneurs se sont réunis. D'ailleurs, on en connaît un, Philippe Baudouin, qui est réalisateur à
nos proches.
Voilà. Et donc, le disque qui parle s'oppose évidemment au disque qui chante. Il s'agit de cette période des années 50 à 80 où le micro-sillon était roi et on croyait encore en la suprématie de la voix, en son pouvoir quasi même magique. Donc la voix commerciale, la voix qui est là aussi pour nous éduquer, la voix didactique, la voix politique. Donc c'est un livre qui met en valeur toutes sortes de bizarreries sonores qui sont soit des disques d'éducation sexuelle, ça a été un des grands courants dans les années 60. Il y a aussi les disques de propagande politique. Il y a notamment, il nous révèle l'existence d'un disque qui avait été commercialisé par Paul Touvier, figurez-vous, et qui avait eu la possibilité de convaincre Jacques Brel de participer à ce disque. Évidemment, personne ne savait à l'époque
qui était
vraiment Paul Touvier. Il utilisait le nom de Paul Berthet pour ce disque qui s'appelle L'amour et la vie.
Oui.
Vous voyez, un des grands classiques. Mais il y a aussi des disques assez inattendus, notamment sur les tracteurs Renault, qui nous font écouter le bruit des moteurs de leur nouveau tracteur pour les paysans. Et sur la face B, vous avez deux paysans. Je pense que ce sont des acteurs qui avec des voix un peu rocailleuses, assez bon. Parfois, ces disques qui sont des moments de réalisme passent également vers quelque chose de beaucoup plus joué. D'ailleurs, il y a aussi une grande utilisation des humoristes et des chansonniers de l'époque, ou des voix très caractéristiques telles que Pierre Belmar, qui apprend à comment répondre au téléphone quand on est standardiste. Et c'est aussi quelque chose de très caractéristique. Le livre est accompagné d'un CD et on est frappé par la qualité extraordinaire de l'articulation, du travail vocal. C'est une époque où le relâchement des cordes vocales n'existait pas. Et aussi bien Denis Fabre que Pierre Belmar, que ces grands noms de la radio, ou Jean Negroni dans un des disques, ou Monsieur Tout-le-Monde, ou des gens très, très méconnus comme Raoul Ours. Raoul Ours était un avocat.
Dites-nous qui c'est.
Et Raoul Ours avait créé une méthode pour apprendre à faire parler ses perroquets. Voilà, donc nous avons comme ça des tas de choses extraordinaires, parfois surprenantes. Et avec le recul, ces disques qui étaient conçus avec le plus grand sérieux, très souvent, sont désormais des disques qui font plutôt rire. Et alors voilà, il y a un extrait.
Donc, premier extrait, vous avez sélectionné trois extraits caractéristiques.
Alors, je n'en dis pas plus, je reviens après. Voilà, essayez de deviner de quoi il s'agit.
Bloquez, attrapez les barreaux, écartez les bras du corps, contractez bien les abdominaux, poussez fortement avec la sangle abdominale. Allez-y. Tant que vous pouvez, continuez encore, continuez toujours. Bien. Reprenez votre souffle. On repart. Allez-y. Bloquez. Allez-y. Allez. Toujours, le voilà qui descend,
On va faire un petit sondage autour de cette table, Fausto Fazulo.
Entendre le balai qui descend, c'est ça?
Le balai qui descend, oui, je pense pas que ce soit ça. Céline Duchesnay.
Oui, c'est un entraînement à l'accouchement.
Ah, voilà, mais Antoine Guillot gagne un album de bande dessinée en couleur.
Il s'agissait de la voix du médecin Pierre Vellet, qui était un des grands pontes de l'accouchement sans douleur, à une époque où cette technique n'était pas encore... Oui. Il avait créé donc un disque, un 33 tours, de cours de la méthode psychoprophylactique d'un accouchement sans douleur. But my words remain forever. But no one knows the date now when the end will be. Not even the angels. No, nor even God's Son. Only the Father knows. The world will be at ease, banquets and parties and weddings, just as it was in Noah's time before the sudden coming of the flood. Alors pas comme tellement. Qu'écoute-t-on?
Good News Circle, le morceau I Wish We'd All Been Ready. C'est un groupe de folk chrétien des années 70.
So be prepared, for you don't know what day your Lord is coming. Du folk chrétien pour succéder à une séance d'accouchement, voilà qui oriente bien cette émission vers une très digne moralité sociale. Vous allez nous parler de quoi?
En fait, des Leftovers, parce que ce morceau-là, il ouvre la troisième saison des Leftovers, où on se retrouve en 1844 dans un groupe de milleristes, c'est-à-dire la secte... une secte protestante dont le fondateur William Miller en fait avait calculé la venue du Christ, et ils l'ont attendu une première fois, le retour du Christ, hein, le second coming. Il n'est pas venu, ils l'ont recalculé, il n'est pas venu, puis progressivement la secte s'est dissoute de déception en déception, mais la première grande attente déçue est connue sous le nom de la grande déception. C'est comme un événement mystique en lui-même, quoi, la grande déception. Et la troisième saison des Leftovers a ça de absolument sublime. Pour moi, elle fonctionne comme l'autre côté de Mélancolia de Lars von Trier. Mélancolia de Lars von Trier montre à quel point, si on savait que la fin du monde avait lieu, on se sentirait détendu. Enfin. Tandis que The Leftovers, c'est qu'est-ce qui se passe quand on sait que finalement la fin du monde va pas avoir lieu. Donc pour vous rappeler, The Leftovers, c'est la série de Damon Lindelof et Tom Perrotta. C'est sa troisième et dernière saison. Au départ, The Leftovers, c'est 2% de l'humanité disparaît du jour au lendemain et ils reviendront pas. La série commence 3 ans plus tard, ils sont pas revenus et ne reviendront jamais. 2% de l'humanité, comme ça, d'un coup, paf.
C'est sans qu'il y ait l'espérance de trouver une raison à ce pourcentage-là.
Exactement, on n'aura pas d'explication. Événement surnaturel et l'humanité doit se recaler vis-à-vis de ça. On suit un petit groupe de personnages, tout petit groupe de personnages. D'abord dans la ville de Mapleton, ensuite ils se déplacent, ils vont à Jardin, une ville où il n'y a pas eu de disparus. Alors ils se croient complètement protégés par le reste du monde et c'est pas le cas. Troisième saison, on commence 3 ans plus tard. Et là, les gens sont vraiment fatigués. Ils sont vraiment fatigués de ne pas avoir de réponse, de ne pas pouvoir faire leur deuil, d'errer sans trouver de sens à leur vie. Et ils ont comme l'espoir, finalement, que ça va être la fin du monde. Mais nous, les spectateurs, dès le début, on a cette séquence sur les Milleriens. Et on sait que ce truc-là n'aura pas lieu. On a compris. Et c'était un peu aussi pour vous, François, parce que vous ne pouvez pas ne pas penser à Léon Blois.
Je pense toujours à Léon Blois.
Vous pensez toujours à Léon Blois, qui a attendu l'apocalypse toute sa vie, quoi.
Ouais.
Et qui est mort sans l'avoir vu.
Mais alors, il n'est pas millerien, Blois, parce que tous les signes qu'il pouvait repérer dans la réalité étaient toujours des signes déceptifs. Même la Première Guerre mondiale était pour lui un signe assez intéressant, mais rien de plus. Donc, c'est pas quelqu'un qui aurait donné,
qui aurait daté des
computations.
Mais enfin, bon, quoi, c'est un sentiment qu'on peut tous connaître. C'est l'idée que on n'arrive pas à la fin du film aussi. C'est pas seulement parce que on en a marre de cette vie. C'est parce qu'on a envie d'être à la fin de l'histoire, quoi. C'est-à-dire, si l'histoire continue sans nous, on va être oublié, complètement noyé dans le flot des péripéties suivantes. Et donc, c'est comment arriver à recaler sa relation au divin par rapport à ça. Donc, on redécale tout avec The Leftovers. Chaque attente sera déçue. Mais ça veut que chaque attente soit déçue ne veut pas dire qu'il n'y a pas de surnaturel. Le surnaturel est ailleurs. Il est à voir autrement que dans les stupides espoirs qu'on porte sur des événements qui sont extérieurs à nous.
Leftovers, donc le choix de Paco Mthielman pour cet été. On en est alors, donc c'est la troisième saison ?
Troisième et dernière saison, oui. On est sorti en DVD.
Tout est programmé, on est...
À vous devez les regarder, François.
Voilà, très bien. On occupera donc une partie de notre été à regarder Leftovers. On passe maintenant à un autre, puisqu'il était question de l'attente du Christ, du deuxième avènement, du bien et du mal. Eh bien, on va rester un peu dans cette thématique avec Brian De Palma, l'esprit de Caïn.
You know, I hate to bring this up, but you are married to the perfect man.
I don't know.
Car popped up out of Half Moon Marsh. Had a woman's body in it.
And he's becoming awfully compulsive with Amy. He doesn't just take care of her. He studies her.
What do we got now? Two moms, a babysitter, and all their kids are gone.
You could get us all put away for good.
I have this horrible feeling that it has something to do with his father.
I did nothing. I don't even exist.
This thing you're doing means everything to the old man.
I won't hurt her.
She'll hurt you.
Alors, l'esprit de Caïn, Brian De Palma, qui est sorti donc en DVD collector chez Universal. On va d'abord parler du film et de l'histoire de la nouvelle version qui nous est proposée.
Oui, parce que donc c'est un combo DVD Blu-ray. Moi, j'ai choisi ça parce que on a souvent parlé de De Palma, évidemment, un mauvais genre. Et c'est son film mal aimé. Moi, j'étais le premier à pas trop aimer le film quand il est sorti en 1992.
Pourquoi?
Et Parce que c'est un film qui flirte avec le grotesque et qui va vraiment très très loin dans le maniérisme, et je trouvais que c'était peut-être un petit peu too much. Et puis en le revoyant, là, on se dit que c'est quand même beaucoup plus intéressant que ça. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que 92, De Palma est un moment où il a un peu lâché ses thrillers des années 80, type Pulsion et Blowout, pour aller faire autre chose, pour aller faire Les Incorruptibles, pour aller faire Le Bûcher des Vanités et Outrage. Ces deux derniers n'ont d'ailleurs pas du tout marché, alors que c'était des gros films de studio. Et il se dit, je vais aller faire un petit thriller comme j'en ai l'envie, bien poisseux, et puis on va tourner dans mon jardin, ou enfin disons dans un rayon de 5 km autour de chez moi, et comme ça ce sera peinard. Et comme c'est peinard, on peut se lâcher à fond sur l'histoire, sur la mise en scène. Donc dès la première séquence, on a quand même John Lithgow, qu'on a déjà vu assez souvent chez De Palma, qui joue un papa qui est au parc avec son gamin, et puis finalement il apparaît qu'il est psychiatre, il rentre avec une copine qui elle venait apporter sa fille, enfin faire jouer sa fille, et hop, il lui souffle dans la figure pour l'éblouir pendant qu'elle conduit, et hop, il la chloroforme, et hop, il s'agit de kidnapper l'enfant. Donc on est dans la première séquence, et on est déjà dans un kidnapping d'enfant. Le type, on sait pas, et survient son jumeau, donc le jumeau de John Lithgow, qui lui dit, maintenant t'es bien avancé, qu'est-ce que tu vas faire avec cette bonne femme? La seule solution, c'est the cat in the bag et the bag in the river. Et voilà. Et donc, on est à 5 minutes de film et on a déjà cette histoire de jumeaux, de psychiatres qui kidnappent les enfants. Et voilà. Et tout le film va être comme ça. On découvre très vite qu'en fait, c'est un complexe de multiples personnalités, de schizophrénie plus. Et donc, ce pauvre John Lithgow souffre de ça. Alors, l'idée, c'est comment construire une histoire à partir de ça. Parce que chaque séquence devient sujet à caution. Est-ce que c'est des faits objectifs ou est-ce que c'est une des multiples personnalités de John Lithgow qui est en train de vivre quelque chose qui n'existe pas vraiment dans le réel? Et le film nous balade comme ça. Et dans la mise en scène, De Palma renonce au split screen mais fait tout autre chose. C'est-à-dire qu'il nous fait des plans séquences dont il a le secret et il joue avec les écrans de télévision. Il y a quand même une séquence hallucinante où il y a Jack Bauer qu'on avait vu dans Scarface qui est au chevet de sa femme mourante, elle a un cancer dernière phase, et il a un petit peu sympathisé avec l'infirmière, et c'est le nouvel an, et allez, on se laisse aller, grosse prise de bouche avec l'infirmière au moment de la nouvelle année, et c'est à ce moment-là que la femme dans le coma a un instant de sursaut, et elle voit ça avant de mourir définitivement. Et cette séquence-là, évidemment, est répercutée dans la télévision. Donc, voilà. Tout est permis. Il y a un lancer de petites filles avec des oranges et du troisième étage. Et le problème, c'est un peu comme un jongleur, quoi. Est-ce qu'on va réussir à récupérer les oranges ou la petite fille? C'est très, très intéressant et ça se permet tout. Simplement, De Palma avait dit dans tous ses entretiens de l'époque et notamment dans le fameux livre d'entretien avec Laurent Vachaud et Samuel Blumenfeld qui va ressortir cette année dans une version complétée, qu'il était pas très content de ce qu'il avait fait. C'est-à-dire qu'au dernier moment, dans la salle de montage, il a renoncé à la plus grande outrance. C'est-à-dire qu'il avait prévu que son film serait articulé avec un immense flashback d'une demi-heure en plein milieu. Et il s'est dit que non, qu'il allait falloir mettre des cartons, que les gens n'allaient pas comprendre. Donc, il a tout remis dans l'ordre. Alors, il a tout remis dans l'ordre, remettant tout dans l'ordre de la chronologie. C'est comme ça qu'on a vu le film depuis 92. Ça commence avec cette scène que je vous ai racontée. Le problème, c'est que ça commence très fort et qu'au bout de 3 scènes, il développe une histoire d'amour d'adultère avec cette histoire de femme et de veuf. Et c'est pas possible parce que tout d'un coup, c'est littéralement les feux de l'amour. Et les feux de l'amour en schizophrène. Donc, il y a un fan du film, qui est un Hollandais, qui s'appelle Piet Gelderblom, qui, en 2012, s'est dit, eh bien, moi, je vais reprendre le scénario d'origine et je vais remonter le film tel qu'il était conçu dans la tête de De Palma. Et donc, il y a toutes les séquences du film, mais dans un autre ordre, avec ce fameux flashback d'une demi-heure. Et ça devient beaucoup plus fort, parce que c'est plus compliqué à comprendre, mais en intensité, on part réellement des feux de l'amour pour finir chez Fulci, dans une espèce de version extraordinaire de La Nuit des Morts Vivants, sur l'écran de télésurveillance. Et du coup, ce combo propose cette nouvelle version, qui s'appelle Director's Cut, parce qu'entre-temps, Brian De Palma l'a vu, et a dit, mais c'est bien sûr, mais c'est ça, mais c'est ma Director's Cut. Et donc, les deux versions dans ce combo, l'esprit de Caïn, Raising Caïn, éléphant de film avec Universal.
Voilà, l'esprit de Caïn, donc à découvrir dans sa version, je dirais, recuté par un fan, donc Brian De Palma.
Would you lie to me lately, true? Would you die for me, maybe, true? For beast is the color of my moon. Tomorrow, for you to know that sorrow hides in a sculpture. Tomorrow, for you to know that sorrow hides in a sculpture.
Goldie, choix de Laurent Polleret pour la playlist de Mauvais Genre sur France Culture en ce dernier samedi de la saison. Vous parliez de Fulci il y a quelques minutes, mon cher Philippe Rouillet. Eh bien, on va retrouver Lucio Fulci avec, alors, de nouveau, une version collector, mais cette fois, celle de Non si se vizia un paperino, magnifiquement traduit en français, Fausto Fasulo, par La longue nuit de l'exorcisme. Comprenne qui pourra.
Oui, c'est un magnifique film, et si vous n'avez pas d'argent pour partir en vacances cet été, le Chat qui fume vous envoie sous le cagnard des Pouilles. Les Pouilles dans les années 70, filmé par Lucio Fulci. Alors, un petit éclaircissement vis-à-vis du titre ridicule français, La longue nuit de l'exorcisme.
Parce qu'il n'y a pas de nuit et il n'y a pas d'exorcisme.
Il n'y a ni nuit, puisque c'est un film qui se passe principalement de jour, et l'exorcisme, il n'y a point non plus, si ce n'est vaguement une suspicion de sorcellerie. Voilà pour le titre. C'est un film qui est sorti en 78 en salle en France, qui a pas très très bien fonctionné. Il a d'ailleurs pas très bien marché en fait loin du territoire italien. Il a été exploité ensuite en VHS et puis il a disparu littéralement. Il a ressurgi en DVD aux États-Unis via Encore Bay et Blue Underground. Donc c'est vraiment une aubaine que de le voir aujourd'hui débarquer dans un combo Blu-ray DVD édité par Le Chat qui fume. C'est probablement le meilleur film de Lucio Fulci, je pense. Et c'est intéressant, puisque pour revenir en fait sur le titre italien, Non si se vizia un paperino, ça veut dire « Ne torturez pas un canton ».
Ho fatto tre figure con la cera, poi le ho dipinte di nero, perché quella era fattura di morte, e le ho prese e le ho passate da parte a parte con gli spilli. E questo bisogna farlo 13 volte mentre...
Canton, donc. Pourquoi des cantons? Il est question donc de meurtre d'enfants, puisque le pitch est le suivant. Il s'agit d'une enquête donc dans le sud de l'Italie autour d'une série de meurtres d'enfants. Donc la suspicion est jetée sur plusieurs personnages qui sont incarnés par Florida Bolkan, Barbara Boucher, Irène Papas, Marc Porel. On y croise Thomas Milian, le regretté Thomas Milian qui joue un journaliste un petit peu sulfureux et qui vient remuer tout ça. Et ce qui est très intéressant en fait quand on replace le film dans la carrière de Fulci, le film date donc de 1972. Voilà, à l'époque Fulci n'était pas encore l'empereur du gore, il n'avait pas encore marché sur Rome sans chemise noire évidemment. Il n'avait pas encore entamé la réalisation de L'Enfer des zombies en 1979, qui le sacrera donc chef de file du cinéma d'horreur transalpin. Il avait expérimenté dans le thriller italien dans les années 70, il avait signé quelques bons films, notamment Perversion Story. Et là, ce qui est très intéressant avec La longue nuit de l'exorcisme, c'est qu'il fait un pas de côté par rapport au giallo, qui très souvent se passe en milieu urbain, qui très souvent met en scène des étrangers dans la jet set par exemple. Là, on se retrouve littéralement plongé dans l'Italie rurale, qui est écartelée entre le modernisme venu du nord et les traditions archaïques et parfois très violentes du sud. Donc le film est très intéressant pour ça, et ce qui est passionnant chez Fulci, c'est que c'est un grand misanthrope, et du coup il renvoie toutes ces personnes en fait dos à dos, et on assiste à une à une sorte, et j'insiste bien sur sorte, d'intrigue, puisque le film est un film aussi déambulatoire. C'est un pur film solaire, et finalement, la résolution de l'intrigue n'est pas ce qui importe, c'est plus le cheminement, en fait, à cette résolution. Et c'est évidemment aussi, puisque c'est l'une des obsessions de Fulci, un grand film sur la culpabilité et sur le refoulement de cette culpabilité.
Effectivement, avec notamment, dès le départ, le spectacle de cette bretelle d'autoroute en béton qui vient scarifier véritablement le paysage et imposer dans ce paysage une sauvagerie archaïque assez magnifique, eh bien, la patte, la trace, la cicatrice de la technologie, et tout le film va être là-dessus. C'est une sorte de tension non résolue entre la civilisation moderne, cette espèce d'Italie qui peine à se moderniser, et quand elle se modernise, eh bien, c'est dans la violence, et puis un monde archaïque qui tient à ses traditions et qui tient à sa violence propre. Donc c'est tout à fait ça, parce que finalement, il y a le spectacle de l'autoroute, et à côté, il y a la sorcière qui gratte le sol, donc geste archaïque s'il en fut, pour arriver à déterrer le squelette de son enfant. Donc il y a une sorte, dès le départ, les situations sont emblématisées par ces deux éléments forts. Philippe Rouillet.
Oui, ben c'est une grande chance d'avoir cette édition. Il faut bien se rendre compte qu'en France, avec Le Chat qui filme et Ecstasy of Film, on a maintenant deux éditeurs qui font dans le marché de niche, notamment sur le giallo italien. C'est quelque chose qu'on n'avait pas. C'est ce que disait Fausto tout à l'heure. Il fallait toujours aller chercher chez Blunderground et chez des éditeurs comme ça, anglo-saxons, des Onins. Là, on a des éditions avec toujours des Blu-ray, avec des sous-titrages. Et puis, Fausto, il y a une caisse de bonus.
Beaucoup de bonus, des interviews, des analyses.
Enfin, la voix de Lucio Fulci.
La voix de Lucio Fulci, des témoignages en ce qui concerne son caractère absolument irascible. On a vraiment la possibilité, en fait, de plonger encore plus loin dans le film, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque des éditions américaines, qui, même si elles proposaient des bonus, n'allaient pas si loin dans l'étude.
Oui, on trouve effectivement des témoignages de Florida Bolkan, Barbara Boucher, dont les deux actrices du film, et puis également des interventions d'Olivier Père et de Jean-François Roger, donc à la découverte du chef-d'œuvre de Lucio Fulci, La longue nuit de l'exorciste, Non si se vit, sia un paperino, c'est aux éditions Le chat qui fume, et de, ma foi, Lucio Fulci à Dario Argento. La transition, pour une fois, se fait sans souffrance dans cette émission de ce soir. Avec vous, Sixtine Audebert. Donc là, on ne parlera pas de Dario Argento, mais de sa fille, Asia Argento, oui, qui nous rend visite, comme le Saint-Esprit.
Oui, elle sera présente à Paris à l'occasion de 3 soirées performances qui se tiendront les 6, 7 et 8 juillet prochains au Club Salo. Alors le Club Salo, c'est un lieu parisien qui s'est donné pour mission de garder sa place à l'ombre, si on peut dire, à l'underground, et dans son expression la plus radicale, puisque pour avoir choisi un titre pareil, le film le plus provocant de Pasolini, on ne peut que s'attendre à des merveilles. Donc c'est un club qui se tient au modèle de la contre-culture, dit-on, malgré l'exposition médiatique dont il a pu bénéficier, par son caractère éphémère. C'est-à-dire qu'après avoir reçu ici, depuis octobre 2016, nos amis de la compagnie du Zerep, du Cirque Électrique, Bruce Labrousse, Abel Ferreira et j'en passe des meilleurs, il clôture ce cycle avec la sulfureuse Asia Argento. Donc le principe du club, ce sont donc 3 soirées où l'artiste invité a carte blanche pour plonger dans son univers les participants. Asia Argento, donc oui, c'est la fille de Dario Argento, un des réalisateurs fétiches de Mauvais Genre, et d'une actrice, Daria Nicolodi, qui est ce beau visage très allongé qui émaille les films du maître. Et donc, vous vous en doutez, le fruit de cette union ne peut être, pardonnez-moi la facilité de la blague, que rouge profond, c'est-à-dire tentateur, gorgé d'un sucre enivrant, un visage de poupée punk, tatouée et torturée, qui cultive à travers ses différents rôles l'image de la fille un peu bousillée qui utilise son corps destroy, souvent trop maigre. On se souvient que le premier film qu'elle a fait avec son père, c'est Trauma, où elle joue le rôle d'une petite fille anorexique, donc qui utilise ce corps pour arriver à ses fins avec toujours une lueur d'espoir candide qui ondoie dans ses yeux cernés de noir. Et c'est ainsi que l'immersion commence, donc le premier soir, le 6, de 22h à minuit, les masterclass autour du cinéma auront lieu avec des réalisateurs amis, donc Gaspard Noé, Bertrand Bonello, avec qui elle a tourné En Noir, De la guerre, et Olivier Assayas, avec qui elle avait fait Boarding Gate. Et le 7 seront donc des performances qu'on appelle des spoken word avec des filles qui ont la gouaille comme elles, qui sont de la mouvance post-féministe. Il y aura Virginie Despentes, Béatrice Dalle, Lydia Lunch. Mais il y aura également beaucoup donc de performances chantées, des performances d'Asia Argento et Bertrand Bonello, une installation photo d'un photographe italien, un tatoueur japonais et surtout jusque 6 heures du matin, tous les soirs, des DJ sets brillants qui recomposent une atmosphère de néon entre la sensualité incisive du giallo et le tic-tac de l'hypermodernité du techno-thriller. Donc du rock, de la dark électro, de l'indus et le grésillement sexy de la voix d'Argento. Et donc, mauvais sens ne saurait mentir, vous aurez aussi un traiteur italien pour vous rassasier si vous le souhaitez. Rendez-vous donc le 6, 7 et 8 juillet de 22h à 6h du matin au Salle au Club 142 rue Montmartre à Paris pour bien entamer et mordre à pleines dents non seulement dans l'aube, mais aussi dans l'été.
Merci Sixtine pour ces recommandations hautement lyriques et convaincantes de la performance d'Asia Argento. Mais monsieur Beer, le mal se répand dans ce studio. Le diable prend la possession du plateau. Vite, un exorciste.
Je vais vous faire entendre la voix de Monseigneur Yvan de la Thibauderie qui donc proposait dans Trésor des prières mystérieuses une prière à l'exorcisme. Et donc ce disque permettait à tout à chacun, dès que vous aviez un proche atteint du mal,
et qu'il, mal,
et qu'il fallait posséder, l'exorciser, grâce à ce disque à portée de main, vous pouviez peut-être faire des miracles, disons-nous. Il fallait simplement dire avec beaucoup de ferveur le texte du livret qui accompagnait ce disque. Voilà.
Toi, esprit du mal, je t'en conjure et je t'ordonne, ô démon, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par sa puissance, par la vertu de la Sainte Trinité, par sa toute-puissance, que toi, malin et toute-puissance diabolique, vous sortiez de cette créature humaine, de son corps, de son âme, de son esprit. Esprit du mal, sors complètement. N'essaie pas de rester immobile, ou de circuler, ou de te cacher, ou de t'acharner dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans ses vêtements, ou dans n'importe quel objet ou animal, ou chose qui lui appartienne, ou dont il se serve. Éloigne-toi et fuis. Dans l'âme, dans l'esprit, dans la chair, dans les os de cette pure...
Voilà, merci à Monseigneur de la Thibaudière d'avoir fait souffler sur ce plateau pesté par la présence du démon le vent suave et rafraîchissant de la grâce céleste. Je passe maintenant la parole à monsieur Antoine Guillot qui vient là, qui va un peu plus.
Je me demandais si Monseigneur jouait de l'orgue en même temps qu'il exorcisait.
Non, c'est pas comme Tiellement derrière qui était à l'orgue.
Ah oui, vous avez reconnu sa touche. Alors moi, je viens vous parler d'un livre qui s'appelle Paiement accepté. N'oubliez pas un message pour les cachets de cette émission qui nous apprend des leçons utiles. Par exemple, que le joueur doit permettre à son adversaire d'avancer, sinon le jeu se bloque et il n'y a plus de partie. C'est une des choses qu'on apprend en jouant du Scrabble. Car le Scrabble joue un rôle éminent dans ce livre. D'ailleurs, paiement accepté, ce sont deux mots qui sont accolés comme ça dans une partie de Scrabble. Alors, c'est une histoire assez classique en apparence, l'histoire d'un réalisateur de films couronné de succès. Il a signé des titres aussi déprimants que Une heure à tuer, Trop tard, Déjà la fin. Il vient de faire un triomphe au bout de 30 ans de carrière avec La continuité grise, qui a remporté 6 Oscars, une Palme d'or et un Lion d'or. On se demande comment il a fait. Alors, seule particularité de cette histoire, donc voilà, il a ce succès, il rêve grâce au succès de refaire un vieux projet qu'il avait depuis longtemps qui s'appelle Merci, Pardon. On sent que la déprime est toujours là. Un film de science-fiction, mais qui rend son financement compliqué parce que c'est un réalisateur français et on sait qu'en France, comme il le dit, on a toujours eu du mal avec le film de genre et rien n'a changé en fait puisque nous sommes en 2058 en fait. Alors c'est rassurant, ça nous dit qu'en 2058, on continue à tourner des films, c'est toujours un peu compliqué, mais en s'obstinant, on y arrive. Alors, histoire classique là encore, parce qu'il a une épouse qui se plaint de ses départs répétés en tournage, même si là, il a promis de tourner son film de science-fiction pas très loin, à Vézelay. Il faudrait toujours tourner des films de science-fiction
à Vézelay.
À Vézelay. Et puis surtout, il a un producteur très malin qui tient de son père, parce que ce producteur a la tête de Donald Trump. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'en fait, c'est Donald Trump junior, devenu producteur depuis que sa famille a quitté les États-Unis. Il y a une guerre civile aux États-Unis. Ils se sont réfugiés dans un taudis à Belleville. Et lui, il a grandi, il est devenu producteur assez roublard. Il va chercher de l'argent auprès d'une sorte de clone de Gérard Depardieu, en encore plus énorme, qui accepte de lui prêter de l'argent à un taux qui défie toute concurrence, à condition qu'il embauche sa maîtresse dans le film. Donc on est dans des choses qu'on a déjà beaucoup vues, mais ce qui est très étonnant, c'est que cette histoire donc se passe en 2058. Mais en 2058, tel qu'on pouvait l'imaginer un siècle avant, c'est-à-dire qu'on est dans un rétrofuturisme qui est accentué par le dessin de Hugo Bienvenu. Hugo Bienvenu, c'est un réalisateur de dessins animés, c'est un animateur qui sort de l'école des Gobelins, comme Bastien Vivès ou Riyad Satouf avant lui. Donc voilà, c'est tout à fait prometteur pour lui. Il est en train de préparer son premier long métrage, donc il sait ce que c'est que de se coltiner le monde des financements. Alors le Centre National du Cinéma a un peu évolué dans ces époques-là. Il a des algorithmes, ça s'appelle AlgoCiné. Et alors l'algorithme vous permet de calculer, de prédire le taux de rentabilité de votre film en fonction d'un certain nombre de critères. Ça peut être le scénario, mais ça peut être aussi l'emplacement de la fossette d'une actrice ou le rapport entre ses yeux et son nez pour savoir si le film va marcher. Alors on est dans un univers très réaliste, c'est un dessin qui rappelle un peu Raymond Poivé, oui, d'un côté Paul Gillon, c'est-à-dire qu'on a des corps qui sont comme ça un peu rigides et qui sont mis sans arrêt en crise par le dessin. C'est-à-dire la couverture de ce livre, on voit des gens en lévitation comme ça, dans des couleurs en quadrichromie à gros grains, vous savez, qui rappellent un peu les publications bon marché qu'il pouvait y avoir dans les années 70, et qui va en fait rassembler tout un univers de l'art contemporain. En regardant les couleurs, la manière dont est représentée la France de 2058, on a l'impression d'être chez David Hockney par moment. Ils sont dans des architectures qui sont celles à la fois de Frank Lloyd Wright pour les intérieurs et pour les lieux institutionnels de Franck Gehry. D'ailleurs, on fait les avant-premières toujours à la Cinémathèque française. On est rassuré de savoir qu'en 2058, la Cinémathèque française existe encore. Et puis, il y a tout d'un coup des décalages graphiques assez inattendus. C'est-à-dire que les véhicules sont de sorte de bulles un peu molles, translucides. Un présentateur télé va être vu comme en anamorphose. C'est-à-dire qu'il y a un climat d'étrangeté et d'inquiétude qui vient nous apprendre en fait à lâcher prise. Voilà, c'est un grand livre sur le lâcher prise, c'est la grande leçon du Scrabble. À un moment, il faut arrêter de réfléchir, il faut laisser les mots infuser en soi, accepter de perdre pour pouvoir gagner. Et qu'est-ce qu'il arrive à ce pauvre réalisateur? C'est qu'au milieu du livre, et on comprend les personnages en lévitation sur la couverture, il a un accident de train phénoménal, le magnéto-rail a lâché et il se retrouve dans une opération de la moelle épinière tout à fait saisissante. On lui met des bio-implants, des choses comme ça. Donc il se retrouve obligé d'abandonner son film à son assistant, et tout d'un coup nous reviennent toutes ces histoires de tournage dantesque, que ce soit celui de Cléopâtre ou de l'enfer de Clouseau, où tout d'un coup le réalisateur se retrouve dans l'incapacité de poursuivre, et finalement il découvre le bonheur comme ça dans le lâcher de son film. Donc c'est une histoire tout à fait surprenante qui nous prend par des biais inattendus. Ça s'appelle donc Paiement accepté. C'est chez De Noël Graphique,
avec des couleurs assez violentes,
de
rose,
des couleurs
frais,
assez rétro comme ça, et osant aussi par moments le dégradé informatique et l'horreur totale généralement dans les livres de bande dessinée, et qui là produit des effets étonnants. Et puis si vous connaissez l'éditeur de ce livre, Jean-Luc Fromental, vous le retrouverez aussi figurant dans un rôle très important dans ce livre.
Merci Antoine Guillot. Hugo, Bienvenu, Paiement accepté, c'est chez De Noël Graphique. Alors nos fidèles auditeurs n'ont pas oublié une des célèbres émissions de Mauvais Genre consacrée au fist fucking, et dans cette émission vous pouvez entendre Céline Duchesnay, quelqu'un qui vient de publier le livre que vous avez choisi comme sujet d'aujourd'hui, un livre de lutte et de conflit, bien loin des délices mystiques et des délicatessen du fist fucking.
Si, il y a un lien tout de même, parce qu'on en parle un petit peu du fist-fucking dans ce livre qui s'appelle Pride, chronique de la révolution gay, et qui donc a été écrit par Éric Rémès, qui, en effet, François, lors de cette émission que nous avions faite sur le fist-fucking, était un petit peu celui qui nous donnait des cours techniques sur cette pratique sexuelle de haut vol. Alors là, d'Éric Rémès, on peut quand même rappeler qu'il a fait des études de philo de psychologie clinique, il est devenu journaliste, notamment à Libé et à Guépier, qu'il a fait son entrée en littérature en 1999 avec Je bande, donc je suis, qui était publié par Guillaume Dustan chez Ballan. Et on retrouvait son double littéraire de Berlin Tintin qui, en fait, menait une sorte de quête existentielle et sexuelle. Mais c'est un livre qui lui vaudra quand même beaucoup de déboires parce que il avait mis en avant un personnage séropositif qui non seulement avait des relations sexuelles non protégées, mais qui revendiquait même le désir du sexe sans précaution, tout en connaissant ses conséquences. Alors je crois que le simple fait de lire la bibliographie de notre ami Rémès nous permet un petit peu de voir un petit peu quel est son style. Donc il y a le Maître des Amours, il y a Serial Fucker, et puis il y a toute une série de guides et d'essais sur la sexualité, le sexe guide, le guide du sexe gay, oser les conseils d'un gay pour faire l'amour à un homme, oser les massages érotiques, et bien sûr le guide sur le fist-fucking qui était un élément essentiel de notre émission.
Ça nous fit méta grandement.
Alors en tout cas, c'est quand même son positionnement sur ce qu'on appelle le bareback, donc les rapports sexuels non protégés, qui fait qu'il s'est mis à dos quand même un nombre immense de personnes, de gens, d'homosexuels, mais il le revendique tout à fait, il se revendique plutôt comme le morpion finalement des communautés homosexuelles. Ce qui fait que c'est un livre finalement très personnel, pas du tout un essai historique sur les quatre dernières décennies des mouvements homosexuels. Ce n'est pas non plus une vitrine officielle des mouvements homosexuels, s'il y en avait une. C'est un livre thématique, un petit livre rose pétard, et qui réunit un certain nombre de ses chroniques, écrites entre autres entre 90 et 2000, et qui proviennent essentiellement de Libé, Guépier, Gay News, Cité Gay, et j'en passe. Et ça fonctionne par thème. Donc on a le thème de la visibilité, le thème du mariage, le thème de l'homoparentalité, de l'homophobie, de l'hétérophobie, de la subversion, de la drogue, du sexe, du sida, des anisida, donc j'en passe. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on y apprend tout un tas de choses de façon plutôt ludique, plutôt énervée ou militante. Et c'est un livre avec du ton et des humeurs, et un livre aussi très axé sur la communauté homosexuelle masculine. Il y a des rappels historiques nécessaires, donc rappel que l'homosexualité est officiellement dépénalisée en 82, l'origine du drapeau arc-en-ciel, les émeutes de Stonewall, le tournant un petit peu des années 90 où les communautés homosexuelles deviennent un petit peu plus visibles, avec aussi l'arrivée du Pax entre autres. Mais évidemment, c'est le chapitre sexe du livre qui est du pur Rémès et qui nous emmène dans les backrooms, qui nous présente les sex performers, les hauts sportifs de la jouissance, qui nous présente les serial fuckers munis de leurs fuck pills pour les nuits les plus érectiles du monde, qui nous présente aussi des associations telles que Clé, qui est spécialisée dans la fessée, qui nous présente le milieu très fermé des scatophiles. Donc tout ça, c'est sous forme d'article.
Le milieu très fermé des scatophiles.
Oui, parce qu'ils sont fort peu. Les scatophiles, vous avez bien compris, mon cher Christophe Beer. Et aussi les maudites femelles, qui est le premier groupe de SM féminin. Et puis toujours quelques petits modes d'emploi et conseils avisés pratiques. Donc un petit article sur le fist, un petit article sur le massage de la prostate et un code de bonne conduite sexuelle en backroom. Donc voilà, tout ça, c'est chez, évidemment, La Musardine. Ça s'appelle Pride, chronique de la révolution gay, d'Éric Rémès. Et puis, j'ai quand même juste envie de vous donner un petit conseil avant d'aller retrouver Sixtine à Salo. Moi, je vous propose d'aller à la Gaîté Lyrique. Ça se passe à peu près au même moment que le festival dont nous a parlé Cécile.
C'est 6, 7 et 8 juillet pour le Salon
Club.
Alors
moi, c'est du 6 au 9 juillet à la Gaîté Lyrique à Paris, mais c'est avant. Donc, on peut faire les deux. Et il s'agit de la deuxième édition du festival Loud and Proud, qui est consacré aux musiques et cultures queer. Alors, au programme, des artistes et des personnalités qui interrogent les normes sexuelles et sociales, les rapports de domination dans la société entre les sexes, les classes, les origines ethniques, donc du radical, de l'hybridation, de l'expérimental, de l'imagination, du politique et de la flamboyance. Et avec, pour l'anecdote, et ce n'est pas un détail, un symbole très fort, des toilettes non genrées. Donc nous sommes bien dans le queer qui déconstruit la représentation du sexe et du genre, ainsi que les traditionnels binaires masculins, féminins, homo, hétéro. Et pour vous, donc, j'ai retenu quelques événements. L'avant-première de la sortie du film Tom of Finland, un documentaire sur Donna Haraway qu'il faut vraiment absolument pas rater. Et pour finir en dansant, le 7 juillet, ne ratez pas le ball voguing et ses icônes queer. Donc c'est le voguing, c'est cette danse apparue dans les années 70 des communautés homosexuelles, travestis et trans de Harlem. Et c'est très inspiré donc de la mode. Et vous avez alors là, je crois à partir de 19h jusqu'à 1h du matin, un défilé avec des pretty boys et drôles realness et des sirs sirens OTA.
À retrouver
retrouver
tout ça, c'est
sur
à la
notre
Gaîté
site.
Lyrique.
Et c'est à la Gaîté Lyrique. Merci de cette abondance de biens, ma chère Céline. Et on repasse une nouvelle fois la parole au père Bire.
Je vous laisse découvrir ce que la voix que vous allez entendre, qui a un magnifique accent.
Cosmos, autour de nous. Cosmos, en nous. L'infini est dans l'infini. La vie ne s'arrête pas. Les forces de l'énergie sont éternelles. Un monde de possibles s'offre à nous. Et tout ce que nous pouvons imaginer.
Alors, ce n'est pas un exorciste, Christophe non. Bier, de qui s'agit-il?
C'est l'illusionniste Uri Geller, illusionniste puisque Gérard Majax, des années plus tard, avait démonté toute la machination des cuillères tordues. Et donc, Uri Geller, qui était une star dans les années 70, avait notamment commis ce disque chez Polydor, comme quoi, donc oui, c'était vraiment une célébrité. Ce disque nous apprenait à tordre, comme lui, les cuillères,
voilà,
ou les fourchettes.
Personnage mythique qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le dernier numéro de la revue Sans Froid. On terminera avec vous, donc Élise Lépine, vous nous emmenez bien de loin de tout cela. Sous l'équateur ou sur l'équateur?
Sous l'équateur ou sur l'équateur, le long de l'équateur. Ce n'est pas un polar pour l'été, mais un roman d'aventure. Antonin Varenne, Équateur, hein, chez Albin Michel. Alors, on est en cavale aux États-Unis 1871 avec Pete Ferguson. Alors, le bonhomme n'est pas très recommandable. Jugé plus tôt, il est voleur et incendiaire dans le Nebraska. Il est meurtrier dans le Nevada. Il y a mieux comme pédigré. Il est aussi déserteur puisqu'il n'a pas pris part à la guerre de sécession. Donc, pour échapper à tous ceux qui le poursuivent, il part non pas à la conquête de l'Ouest, mais vers le Sud. Alors d'abord en compagnie de chasseurs de bisons du côté du Kansas. Alors là, on a des scènes sidérantes de chasse et de dépeçage de bêtes. La violence, la sauvagerie et l'absurdité de ces choses-là sont bien montrées dans ce roman. C'est un monde, les États-Unis au XIXe siècle, qui se construit et qui se ravage dans un même mouvement. Donc Peter Ferguson va suivre les Comancheros aussi au Mexique. Il va tenter de sauver des enfants indiens qui sont traités pire que des chiens à cette époque-là. Il part ensuite au Guatemala où sourd d'une révolution. Il va tomber amoureux d'une indienne Xinka. Alors on va découvrir aussi les indiens Xinka. Et puis ils vont partir ensemble plus avant vers la Guyane. Donc c'est vraiment un vrai roman d'aventure. Là je vous donne quelques petites touches de cette grande épopée de Peter Ferguson. Bouclera-t-il la boucle de son destin, de son histoire personnelle tumultueuse et folle et cruelle et aventureuse? Alors c'est le 7e roman d'Antonin Varenne. On sent qu'il a de la bouteille, il a une très belle écriture. C'est à la fois ample et ramassé, rien n'est enrobé dans ce roman, et en même temps on a l'impression qu'il y a il y a 400 pages, mais on a l'impression qu'il y en a 800. La nature humaine est rendue accrue, la bêtise et la beauté ensemble, donc c'est un combat, la beauté ne gagne pas toujours d'ailleurs. Il y a beaucoup d'intelligence, de l'humanisme, pas mal de géopolitique aussi. Cette lecture des États-Unis au 19e siècle donne une vision des États-Unis actuels. Il y a aussi de l'écologie, c'est-à-dire que ces massacres de bisons parlent aussi de la façon dont la planète est traitée aujourd'hui par les dirigeants et par le dirigeant des États-Unis. Et donc c'est un roman d'aventure entre western et passion. Donc pour les vacances, je vous invite à suivre l'Équateur d'Antonin Varenne.
Antonin Varenne. Eh bien, merci Élise Lépine, merci à toutes et à tous ceux qui étaient présents ce soir sur le plateau de Mauvais Genre pour nous faire toutes ces recommandations que je vous cite en cavalant, mais dans l'ordre. Le disque qui parle, donc, cabinet de curiosité sonore, Antonin Varenne dans L'Équateur, c'est chez Albin Michel. La revue BD, donc, aux éditions Noir sur Blanc, Clayton Lindemuth en mémoire de Fred, au seuil, Starve de Zezel, c'est chez Urban Comics. Paiement accepté. Hugo, bienvenue chez De Noël Graphique. Pride, chronique de la Révolution gay, c'est aux éditions La Musardine. Et puis ne pas oublier le 6, 7 et 8 juillet, les performances au Salon Club rue Montmartre de Asia Argento. En DVD et Blu-ray, La longue nuit de l'exorcisme de Lucio Fulci, c'est aux éditions Le Chat qui fume. Et L'Esprit de Caïn, c'est chez Universal, donc la redécouverte du véritable montage du film. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Mauvais Genre. Je salue tous les auditrices et tous les auditeurs de Mauvais Genre qui 20 ans plus tard sont toujours là à nous écouter. Merci infiniment. On se retrouve à la rentrée pour fêter justement ces 20e années. D'ici là, passez de
vacances hautement mauvais genre. C'est tout le pire que l'on peut vous souhaiter. Toute l'équipe donc de l'émission, Laurent Polleret, Pierre Monteil, Claire-Martin Dugard, Chloé Leblond, Céline Duchesnay, Sixtine Audebert, Élise Lépine, Philippe Rouillet, Jean-Pierre Dionnet, Antoine Guillot, Fausto Fasulo, Christophe Vire et François Angelier. Je vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre à la rentrée donc pour fêter nos 20 ans. Et j'ai oublié Paco Mtielman, ce qui est un véritable scandale. Voilà, bon été à tous, bonnes vacances. À la rentrée, et on se quitte donc sur Gitchy Dance Beachwood, un choix de Laurent Polleret que je salue bien sûr à l'aube de ses vacances, qu'on retrouvera également à la rentrée pour fêter nos 20 ans. Et d'ici là, ben, on ne quitte pas bien sûr l'antenne de France Culture. On le retrouve à Maurice Chardot pour l'émission Métronomique. Bonne soirée, bonne nuit, bonnes vacances et à très bientôt.